Francis Cabrel, donc Mademoiselle l'Aventure, qui est en fait une réalité. Donc apparemment, il aurait trouvé un enfant dans un pays qu'il a visité, qui était abandonné. Il a récupéré l'enfant et donc il se demande par rapport à cet enfant, quelle était sa vie, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné, etc. Superbe parole. Donc nous sommes toujours avec Sophie Grosjean. Nous parlons de communication non violente aujourd'hui et encore la semaine prochaine. Et Sophie, on était en train de parler juste avant la chanson et deux, trois parenthèses. Nous parlions des besoins et vous aviez dit qu'en fait, on a une forte tendance à vouloir à ce que les autres comblent nos besoins. C'était bien ça ?
Oui, tout à fait. Et donc, j'aime me rappeler que personne d'autre que moi n'est responsable de la satisfaction de mes besoins. Mais c'est vraiment pas évident à intégrer complètement dans sa vie, en fait. Ça demande vraiment de pratiquer régulièrement, de faire des exercices et de se remettre en question très régulièrement. Alors, tant que je suis sur les besoins, je voudrais encore dire, non seulement le besoin n'est pas lié à une personne en particulier, mais le besoin n'est pas lié non plus à une action. Par exemple, travailler n'est pas un besoin. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des tas de gens qui ne travaillent pas. Or, j'ai dit que le besoin est universel, que quel que soit l'âge, la culture, etc. Donc déjà, les enfants et les personnes retraitées ne travaillent plus ou pas. Donc travailler n'est pas un besoin. Par contre, travailler contribue à nourrir de nombreux besoins, comme la reconnaissance, la sécurité. J'ai sécurité financière, sécurité parce que je peux avoir un toit, un abri, le confort, contribuer au bien-être des autres, justement, parce que je peux offrir à mes enfants une éducation, des vêtements, de la nourriture, etc. L'épanouissement, le sens, bon voilà, on pourrait continuer la liste, mais de nombreux besoins sont nourris par le fait de travailler. Et enfin, le besoin n'est pas non plus lié à un objet. Par exemple, une voiture n'est pas un besoin. Heureusement d'ailleurs, parce que si les 8 milliards d'êtres humains avaient chacun une voiture, on aurait un souci. On a déjà un souci comme ça. Mais la voiture, de nouveau, contribue à nourrir de nombreux besoins. De nouveau, par exemple, le confort, la mobilité, faire le meilleur usage de son temps. Mais bon, c'est relatif. Par exemple, si vous avez une voiture à Londres, là, c'est beaucoup plus intéressant pour faire le meilleur usage de votre temps, de prendre le transport en commun. La voiture nourrit aussi un besoin d'autonomie, d'indépendance, etc., etc. Donc, je récapitule, le besoin n'est pas lié à une personne en particulier, il n'est pas lié à une action, il n'est pas lié à un objet. Alors, la bonne nouvelle avec ça, c'est qu'en fait, une fois que j'arrive à démêler comme ça mes besoins des personnes, des actions et des objets, c'est qu'il y a un éventail immense de possibilités qui s'offrent à moi pour satisfaire un besoin. Par exemple, si je dis j'ai besoin de reconnaissance, tous les êtres humains, pour chacun de nous, c'est vraiment important d'une manière ou d'une autre d'avoir de la reconnaissance. Si je dis j'ai besoin de reconnaissance de mon patron, là je suis coincée, okay, j'ai mêlé mon besoin à mon patron, et si mon patron, pour des raisons X, ne me donne pas de reconnaissance, ou, ce qui arrive encore plus souvent, ne me la donne pas de la manière dont je voudrais, parce que souvent j'ai une attente bien précise quant à la façon dont il devrait me donner de la reconnaissance, alors je suis coincée si je suis comme ça. Si je démêle et que je me dis, ok, il y a 7 milliards d'êtres humains sur la planète qui sont susceptibles de me donner de la reconnaissance, il y a aussi les animaux. Moi, j'ai plusieurs chiens à la maison et je peux quitter la cuisine et revenir 10 fois. Ils seront chaque fois contents de me revoir. Donc, il y a aussi je peux aussi recevoir de la reconnaissance aussi d'autres êtres vivants que les humains. Et puis, il y a une personne toute particulière qui peut me donner de la reconnaissance. Si vous avez une idée de qui ça peut être, Franck ?
Ben, moi-même.
Oui, bravo, bonne réponse. Moi-même et... C'est quelque chose que je dis à toutes les personnes que je rencontre et que j'accompagne. Et c'est vrai que souvent, je me rends compte et les personnes se rendent compte que c'est quelque chose que nous n'avons pas tendance à faire. C'est de nous donner de la reconnaissance, de prendre ce temps, de célébrer, ce que j'appelle célébrer, de s'arrêter de nouveau sur ce que je fais, ce que je pourrais regarder de ce que je fais de bien, qui a de la valeur, en fait. Et moi, je pense que chaque jour, il y a moyen de trouver quelque chose que j'ai fait où je suis heureuse de l'avoir fait et où je peux me dire « Ah, chouette, ben, super, ça c'est chouette ce que tu as fait là, pour toi et ou pour quelqu'un d'autre. » Par exemple, je ne sais pas, moi, je m'offre une séance un massage ou un temps de repos à lire mon livre le soir, et bien c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Et je peux me dire ben, « Bravo, tu as pris ce petit temps-là, ça t'a demandé peut-être un petit effort d'accepter, d'arrêter d'être en faire toute cette course aux choses que nous nous mettons la pression de faire. Et j'ai pris un temps pour prendre soin de moi, pour prendre soin de mon besoin de repos et de détente, et donc je peux... me donner de la reconnaissance pour ça. Et je peux aussi me donner de la reconnaissance pour quelque chose que j'ai fait pour quelqu'un d'autre. Et si vous voyez qu'il y a des équilibres entre ce que vous faites pour les autres et ce que vous faites pour vous-même, si le déséquilibre est trop grand, et souvent le déséquilibre, c'est je fais pour les autres, pour les autres, pour les autres, et moi je passe à la trappe, je vous invite à de nouveau à voir ça comme un témoin lumineux qui s'allume, une petite sonnette d'alarme, parce que si ça dure trop longtemps et si c'est trop important, à un moment donné, le risque, c'est que votre organisme s'épuise, que vos batteries, dont je parlais tout à l'heure, que les batteries soient à plat, qu'il n'y ait plus de jus, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons besoin aussi de nous nourrir, de nous ressourcer, de nous détendre et personne ne peut tenir sur la durée, sur une durée très longue, sans prendre soin de soi.
Mais dans notre système judéo-chrétien, l'ornière, elle est très profonde, non ?
Oui, et en même temps, enfin, moi, je suis très mauvaise là-dedans parce que je n'ai pas du tout reçu cette éducation-là. Mais en même temps, elle baigne autour de nous. Mais je pense je ne connais pas la phrase exacte, mais il y a un bout du message qu'on a oublié.
Comme toi-même.
Voilà, le comme toi-même. Et le comme toi-même, il est passé à la trappe, en fait. Et donc, c'est ce que j'appelle de l'égoïsme éclairé. C'est pas de l'égoïsme pur. Pour moi, l'égoïste, c'est quelqu'un qui ne prend soin que de lui sans jamais, jamais se préoccuper des autres, qui n'a aucune considération pour les personnes qui l'entourent.
C'est l'égocentrique, quoi.
Voilà. Et si c'est pas ça, parce qu'il y a une peur souvent des personnes dire, oui, mais moi, je veux pas devenir égocentrique, je veux pas devenir égoïste, et donc dire moi-je et m'occuper de moi et de mes besoins, c'est pas juste, c'est pas bien. Et moi, je dis, c'est aussi égoïste, en fait, de ne prendre soin que des autres, quelque part. Parce que c'est perdre de vue qu'à un moment donné, si je suis à plat, soit je suis en burn-out, ça c'est un truc assez grave, ou bien j'ai une maladie grave, ou bien même je suis dans mon lit avec une grippe où je me suis cassé le pied dans l'escalier parce que je n'en pouvais plus, mais c'est pas un cadeau pour mes proches, en fait. Et donc, moi, je trouve que c'est pas spécialement être altruiste que de ne jamais prendre soin de soi, parce qu'à un moment donné, ça finit par peser sur mon entourage.
Au lieu d'être égoïste aux autres, je suis égoïste à moi-même, quoi.
Quelque part. En tout cas, moi, j'aime bien l'expression être un égoïste éclairé, en fait. C'est une manière de... Voilà. Pour moi, c'est rechercher l'équilibre. L'équilibre entre ce que je donne à l'extérieur et ce que je me donne à moi, ou ce que je veille à recevoir, moi aussi. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Peut-être parce que je suis du signe de la balance, je ne sais pas, mais pour moi, l'équilibre est vraiment quelque chose d'important.
Ok. Alors, pour revenir aux besoins, donc, qu'on a tendance à mettre, à chercher le besoin sur l'autre, est-ce qu'on peut dire qu'il faut essayer, il faut essayer de liquider l'exclusivité pour l'universalité ?
Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, vous avez dit, par exemple, je vais chercher mon besoin chez mon mari, chez mon enfant,
oui,
etc.
Oui, d'accord.
Est-ce qu'on peut dire, pour faire un petit résumé, j'exclus l'exclusivité qui met de la pression sur une personne et je vais plutôt vers l'universalité, c'est-à-dire que mon besoin peut être trouvé chez d'autres personnes,
oui,
qui n'est pas que cette personne-là.
Oui, et en même temps, j'aime bien ce que vous dites parce que, justement, le « il faut », c'est parce qu'on s'est parlé longuement, Franck, avant l'émission, mais le « il faut », pourquoi j'insiste, chaque fois que je dis « il faut », je me mets la pression ou je mets la pression sur l'autre. Alors, c'est sûr que dans la vie, il y a toujours un peu de pression, hein, mais j'aime bien, moi, mettre de la conscience sur le fait que dès que je mets la pression, il y a quelque part une forme de violence. Et c'est pas grave de temps en temps s'il y a un peu de pression, mais si c'est tout le temps, moi j'étais avant une personne, je me mettais une pression monstrueuse, j'étais perfectionniste, j'étais hyper exigeante envers moi-même, je le suis restée, mais j'ai aussi appris à relativiser et à chercher cet équilibre entre, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses où je me disais je dois absolument faire ça aujourd'hui, sinon, mais ma vie n'en dépendait pas, la vie de personne n'en dépendait, donc si c'était fait demain, c'était pas si dramatique que ça, en fait. Et je reste quelqu'un qui aime la qualité de ce que je fais, des services que je rends et des tâches que je réalise, et en même temps, tout en préservant cet équilibre-là. Donc, quand j'entends « il faut quitter l'exclusivité », oui, et en même temps, c'est un petit mot magique en communication non-violente, c'est le « et » plutôt que le « ou », quitter le monde binaire, blanc-noir, mais d'être plutôt dans des nuances de gris, de rester aussi dans cette bienveillance. Si de temps en temps, je n'arrive pas à lâcher prise et que je voudrais tellement, tellement, tellement que ce soit mon mari ou mon enfant ou ma mère ou mon voisin ou mon patron qui va satisfaire mon besoin. C'est juste que c'est important de pouvoir accepter que j'ai cette limite-là. Nous sommes des êtres humains limités. Enfin, non, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes par définition limités dans notre capacité à mettre de la conscience, à lâcher prise, à être dans la paix et la sérénité. C'est juste pas, en tout cas moi, sans doute peut-être le Dalai Lama il y arrive, mais moi j'y arrive pas encore.
Et pas sûr, c'est pas sûr, on ne sait pas.
Je suis pas sûr non plus. Mais
quand il est devant les caméras, il peut peut-être faire grand, beaucoup, et peut-être qu'on ne sait pas, on ne connaît pas
je
sa vie.
Je ne sais pas non plus. Voilà, donc en tout cas, pour voilà, peut-être clôturer cette notion de besoin, mais qui est vraiment primordiale, en fait, c'est encore une chose au niveau du besoin, en fait, nos besoins ou aspirations, on peut mettre plusieurs mots dessus, mais ce sont en fait nos leviers de motivation les plus puissants. Donc quand je travaille, c'est pour ça qu'en entreprise, c'est très utile, la communication non violente aussi est très très, et avec les enfants aussi, parce que quand je travaille au niveau de cette notion de besoin, en fait, je travaille au niveau des leviers de motivation les plus puissants des personnes, en fait. Donc je peux renforcer la motivation et le souhait, l'élan de collaborer, de coopérer des personnes autour de moi quand je travaille avec ça. Alors que si j'ai avec des pensées, des il faut, tu dois et c'est normal que, ça motive pas trop les troupes en fait. Au contraire, ça conduit à l'épuisement, au burn-out, à la démotivation, etc. Donc se rappeler que tout ce que je fais, tout ce que chacun de nous faisons, chaque pas, chaque choix, chaque action, chaque parole, nous faisons ça pour satisfaire des besoins. Et donc la communication non violente, c'est passionnant parce que ça allait découvrir les besoins que je cherche à satisfaire ou que je satisfais en faisant et en disant ce que je fais, même quand c'est dramatique.
Donc le but n'est pas de retirer les besoins, c'est de pouvoir mieux les combler
en fait,
par
c'est...
un autre système.
Oui, voilà. C'est intéressant parce que effectivement, parfois, je viens dire, parfois, je pose des actes où j'ai des paroles qui sont dramatiques, c'est-à-dire qui sont violents ou qui sont exigeants, etc. Et donc, c'est humain. Et en même temps, donc, le but aussi de la communication non violente, ça va être d'aider à trouver d'autres manières de combler mon besoin, de satisfaire mes besoins, qu'en posant cet acte ou cette parole dramatique. Si je peux me relier à la beauté de l'intention de la personne, c'est-à-dire du besoin qu'elle cherche à satisfaire, alors déjà, il y a quelque chose qui s'apaise chez moi parce que je peux comprendre que la personne, elle vient d'hurler parce qu'elle avait besoin de respect, par exemple, ou de sécurité, alors que juste quand elle me hurle dessus, ça, c'est pas audible pour moi, c'est pas acceptable. Mais si je peux me connecter, de nouveau, on parle de connexion, à ce qui est vivant en elle, c'est-à-dire son émotion et son besoin, elle est fâchée parce qu'elle a besoin de respect. Moi aussi, j'ai besoin de respect et de considération. Mais je vais l'aider à trouver une autre manière de nourrir son besoin de respect qu'en me hurlant dessus ou qu'en me tapant dessus ou qu'en cassant quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec l'acte, avec la solution qu'elle envisage, mais je comprends sa motivation. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille. Les solutions, les pistes d'action, on va les envisager plus tard en communication non violente. On va d'abord choyer la relation, c'est-à-dire la compréhension mutuelle. Et la compréhension mutuelle, elle vient quand j'arrive à me connecter à ce que l'autre vit. Parce que je peux vibrer à l'unisson avec la personne, je peux comprendre et me relier à ce qu'elle vit au niveau de ses émotions et de ses besoins, que je peux généralement pas me relier à ce qu'elle pense, parce que en cas de conflit, de tension, en tout cas, je pense pas la même chose. Donc je peux pas la rejoindre.
Et dans la relation à l'autre, il est possible de faire de pratiquer la communication non violente sans que l'autre personne en prenne conscience et avoir une efficacité.
Oui, alors, c'est intéressant et c'est un grand volet que je vais être très frustrée de ne pas pouvoir développer autant que je voudrais ici, mais en fait, il n'est pas nécessaire que mon interlocuteur connaisse la communication non violente pour que moi je puisse la pratiquer avec lui. Pourquoi ? Parce que déjà, donc la première chose que je vais faire, quel que soit, imaginons mon interlocuteur dit quelque chose ou fait quelque chose qui est très déplaisant pour moi. Je suis par exemple très énervée, très agacée. Je ne vais pas nécessairement le dire à l'autre, mais je vais me dire à moi, oh là là, mais quand j'entends ça, quand cette personne fait ça, moi je suis vraiment très agacée. Parce que par exemple, j'aspire à de la collaboration, à de la confiance, ou à une qualité du travail réalisé, etc. Alors ça, je me dis ça à moi, je n'ai encore rien dit à la personne, ok ? Je peux partager ça à la personne, je peux lui dire, écoute, tu m'as dit que tu allais rentrer à 18h, il est 21h, et moi, je t'attends ici avec le repas depuis 3 heures et je n'ai pas reçu d'appel de toi. Et en fait, je suis depuis tout ce temps-là, j'étais super inquiète. Moi, je me demandais ce qui t'était arrivé, donc j'avais besoin de sécurité, de confiance. Et puis, pour moi, c'est important quand on me dit je rentre à telle heure, et bien d'être prévenu si jamais il y a un empêchement ou bien que la personne revienne à l'heure. Et donc, pour moi, c'est une question de respect des engagements, de confiance, de fiabilité. Et souvent, souvent, la réaction, le réflexe, c'est d'imposer une solution à l'autre, de dire dorénavant, si tu ne rentres pas à telle heure, maintenant, je ne te fais plus à manger, ou bien ça va se terminer, etc. Et là, l'idée qui est très inhabituelle, et donc je propose toujours aux personnes de mettre leurs habitudes de communication entre parenthèses, c'est de dire qu'est-ce que ça te fait quand je te dis ça, quand tu m'entends te dire à quel point j'étais inquiète et que je suis contrariée parce que j'aspire à de la sécurité, du respect des engagements et de la confiance. Et parce qu'en fait, je viens de m'exprimer à une personne, à un être humain qui, comme moi, a un cœur et des besoins. Quand je parle à un mur, je ne m'attends pas à ce que le mur ressente quelque chose. Mais quand je parle à un être humain, comme moi, il est stimulé par mes paroles, comme moi, je suis stimulée par les paroles des autres. Et donc, ça m'intéresse, puisque je cherche à établir une qualité de connexion, une qualité de lien avec la personne, ça m'intéresse de savoir en quoi je l'ai stimulée. Alors l'étape d'après, ça va être d'écouter non pas ce qu'elle va penser, et donc imaginons que la personne ne connaisse pas la communication non violente et qu'elle me dise « Oui, mais c'est toujours la même chose avec toi, tu râles tout le temps, et puis je dois absolument là être comme un petit chien à rentrer à date et heure comme tu l'as imaginé. » Voilà, imaginons que c'est ça qu'elle me répond. Alors ça va certainement me demander un effort de ne pas prendre ça contre moi, et donc d'aller m'écouter et me dire « Oh, mais quand j'entends ça, je suis vraiment, contrariée parce que j'ai besoin de compréhension ou de délicatesse, j'aime pas la manière dont il me parle. » Et je vais, et ça demande de la pratique, évidemment, mais essayer de me connecter non pas à ce que la personne a dit, parce que si j'écoute ce qu'elle a dit, ce qu'elle pense, c'est sûr que je vais le prendre contre moi. Il y a un grand risque en tout cas. Mais je vais essayer de me connecter également à ce qui se passe dans son cœur et au niveau de ses besoins. Et je peux assez facilement imaginer, avec un peu de pratique, me dire que cette personne, qui en l'occurrence ici on a deviné mon conjoint, vraisemblablement, il est frustré. Parce que lui, il aspire à de la liberté, à de la compréhension, peut-être à de la flexibilité, à de la souplesse, à de la légèreté aussi, puisqu'il me dit « c'est toujours la même chose avec toi, t'es toujours sur mon dos, etc. » Donc c'est lourd, c'est pesant, c'est... Voilà. Et donc quand je peux me connecter à ça, en tout cas moi c'est mon expérience de vie depuis maintenant plus de 10 ans que je pratique la CNV, je suis moi, et je vais te dire de nouveau, c'est égoïste, mais les autres s'en portent mieux aussi. Moi, je suis beaucoup plus sereine quand j'entends non pas quelqu'un qui m'en veut ou qui me critique, mais quand j'entends une personne qui vit une forme de détresse, de désarroi, d'inconfort. J'entends un être humain qui souffre, et je mets le mot souffrir entre parenthèses, et je n'entends pas quelqu'un qui vocifère, qui me critique, qui me reproche des choses. Et moi, je suis plus en paix quand j'entends ça. Je n'ai plus ces images d'ennemis. Je ne suis plus en train de ruminer des mais quelconques. Quelle emmerdeur, c'est pas possible, et gnagnagni, et gnagnagni. Je suis moi plus en paix, et donc de moi, il émane aussi plus de paix, et ça génère donc plus de paix autour de moi.
Vous êtes plutôt vous regardez en fait la source de la chose, c'est ça ?
J'essaie vraiment de me connecter à ce que l'autre vit, et pas à ce qu'il se dit.
C'est ça.
Je me connecte à ses émotions et à ses besoins, et pas à ce qu'il pense. Et ça fait toute la différence en fait.
Alors nous parlons beaucoup, il nous reste 10 minutes, on ne va plus faire de pause musicale parce que je crois qu'on a encore pas mal de choses à se dire pour cette première émission, non ?
Oui, on fait une alors...
Pause, parce qu'une pause, une mini-pause alors.
D'accord, une mini-pause.
Enfin, une mini-pause, à la limite on coupera la musique en route parce que 10 minutes c'est très court en fait. Hein.